une des qualités, la retraite, enfin, plutôt une de... ce qui va permettre à votre retraite de porter des fruits, ce seront les résolutions que vous prendrez. Alors, vous aurez une instruction, on vous en parlera. Mais ici, il y a des feuilles où on vous donne des petites idées, si vous voulez, pour ces résolutions. Donc, vous pourrez les prendre avant de partir, si vous ne les avez pas prises encore. Ce sont ces feuilles ici. Ce matin, je vais vous parler de l'épouse et de la mère. Après la jeune fille, l'épouse et la mère. Non pas que toutes les jeunes filles deviennent nécessairement épouse et mère, mais beaucoup d'entre elles le deviennent. Vous savez que Saint Pie X avait pour devise « Tout restaurer dans le Christ ». Eh bien, cette devise de Saint Pie X, cet idéal de Saint Pie X, a été repris par Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre, vraiment, en fondant la fraternité Saint Pie X, il avait ce désir de tout restaurer dans le Christ. Et donc, comme je vous disais hier, il ne s'agit pas uniquement de se repaître du négatif, il faut essayer d'avoir dans sa vie un bel idéal et essayer ensuite de concrétiser cet idéal. Et pour cela, il faut voir la part qui est réservée notamment aux épouses et aux mères. Votre rôle en tant qu'épouse est de soutenir votre mari dans sa mission. Votre rôle en tant qu'épouse est de soutenir votre mari dans sa mission et en tant que mère, de former les générations à venir et notamment les hommes de demain et aussi bien sûr les femmes de demain. Certes, ce sont les hommes qui ont un rôle de premier plan dans la société, dans une société digne de ce nom, mais ce sont les femmes qui font les hommes. C'est comme ça, on n'y est pour rien. C'est la vérité. Une heureuse vérité. Alors nous allons voir tout d'abord la femme épouse, après on va voir la femme mère et peut-être la femme servante. Comprendre le rôle d'épouse, c'est comprendre l'intention divine à la création. Dieu voulut donner à Adam une compagne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, en tant qu'épouse, vous n'êtes pas une esclave, ni même une servante de votre mari, vous êtes une associée. Socia. On peut dire que dans un ménage équilibré, le mari a la priorité dans l'ordre du gouvernement et la femme a la priorité dans l'ordre de l'amour. On peut dire que l'homme, on dit qu'il est le chef de famille, donc le chef c'est la tête, et vous, vous êtes le cœur. Alors quand on dit que l'homme est la tête, on ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur. Quand vous dites que vous êtes le cœur, on ne veut pas dire qu'on n'est pas de tête. C'est une question simplement de priorité. Et donc, en tant que tête, le chef de famille doit avoir comme souci le bien commun de sa famille, donc le bien de sa femme et de ses enfants, aussi bien sur le plan naturel que surnaturel. Et en tant qu'associé, alors, vous devez être notamment le soutien de votre époux. Et donc, pour être le soutien de votre époux, vous devez avoir le souci de renforcer, de sanctifier et d'équilibrer l'action de votre mari. Donc, vous devez tout d'abord renforcer l'autorité de votre mari. Une femme doit chercher à plaire à son mari. Et si elle veut plaire à son mari, eh bien, elle doit accepter la place que le bon Dieu lui a réservée. Et en particulier, saint Paul parle de soumission. Alors, on dit qu'il était misogyne, qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Bon. Mais en réalité, c'est vrai que le mot soumission fait mal, mais à mon avis, il correspond un peu quand même à la réalité. Parce que quand vous voyez le péché originel, hein, Lisez le livre de la Genèse, c'est très intéressant. Les quelques versets qui décrivent le péché originel et les effets du péché originel sont très, 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 très intéressants. Et donc, dans le péché originel, on voit, à un moment donné, après le péché originel, eh bien, un passage où Dieu dit « Ton désir te portera sur ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ton désir te portera sur ton mari, mais c'est lui qui dominera sur toi. Ça veut dire que, dans le plan de Dieu, s'il n'y avait pas eu le péché originel, Dieu étant un Dieu d'ordre, la femme aurait dû obéir au mari. Parce que, dans le plan de Dieu, l'homme était le chef. Seulement, cette obéissance aurait été facile. Elle aurait été sans aucune... Il n'y aurait pas eu d'ombre de difficulté. Ça se serait fait naturellement. Mais depuis le péché originel, eh bien, la volonté de l'homme et celle de la femme sont déréglées. Et donc l'obéissance, eh bien, c'est la soumission de notre volonté à la volonté d'un autre. Eh bien, cette soumission, elle est difficile parce que notre volonté est déréglée depuis le péché originel. Et donc, en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas remplacer votre mari et de ne pas contrer son autorité. Au séminaire, vous voyez, je suis le directeur, j'ai des collaborateurs. Mes collaborateurs ne sont pas mes esclaves. Pour la bonne marche du séminaire, il est nécessaire qu'ils agissent dans le même sens que moi. Et donc, bien sûr que je prends conseil auprès d'eux, avant de prendre les décisions et non pas après, hein. Et donc, les hommes doivent prendre conseil auprès de leurs femmes avant de prendre les décisions et non pas après, en disant « Elle est d'accord avec moi, elle est très intelligente, elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle a rien compris, c'est qu'elle est vraiment nulle. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, normalement, on prend conseil avant et pas après, et on tient compte du conseil de l'autre, pas uniquement, on prend pas conseil uniquement en espérant qu'il soit du même avis. Donc, on tient compte après de la lumière qui est donnée à l'autre, et c'est comme ça que les choses marchent bien. Et si ce n'est pas cet ordre qui est respecté, eh bien la vie devient pesante pour tout le monde. Donc de même, étant voulu par Dieu comme une aide pour votre mari, vous devez aller dans le sens de l'assistance. Un autre exemple, comme une infirmière vis-à-vis du chirurgien, vous avez un rôle à la fois subordonné et complémentaire. Et alors, de quelle manière on peut dire justement qu'il y a une complémentarité entre l'homme et la femme dans ce domaine du gouvernement? Eh bien, c'est que l'aide de la femme doit être souvent spirituelle, psychologique, affective. Donc il ne s'agit pas, et ça je vous rassure tout de suite, donc de devenir esclave ou bonne à tout faire. Ce n'est pas forcément le plan de Dieu. Donc vous devez, premier point, renforcer l'autorité de votre mari. Ensuite, vous devez être pour votre mari une source d'apaisement. Étant facteur d'équilibre, il vous faut développer les vertus féminines qui vont avoir un rôle d'apaisement, de pacification, de régulation vis-à-vis des passions, avec une répercussion efficace sur le travail de votre mari. Donc une épouse, si vous voulez, qui est aimable le soir et agréable, bon, c'est sûr que ça facilite les choses. Bon, maintenant aussi, si c'est le mari qui, de son côté, a eu des soucis professionnels et que tout de suite, en arrivant le soir, c'est fous-moi la paix. Et puis, bon. Ben, sachez, entre parenthèses, que beaucoup d'hommes ont besoin d'une période de se refaire une santé, en quelque sorte, avant d'être tout à leur épouse ou leurs enfants. Donc, il faut parfois savoir cela. Et donc, l'homme qui rentre à la maison, embrasse sa femme et va tout de suite voir son journal... lire son journal, ça ne veut pas dire qu'il préfère son journal à sa femme ou ses enfants. C'est que parfois, il a besoin de cette petite phase de décompression, où malheureusement, aujourd'hui, beaucoup c'est la télé ou même c'est l'ordinateur, bon, donc ça, ce n'est pas forcément toujours bien, mais il y a souvent besoin de cette période de sas pour se refaire une santé. Et en ce moment-là, si la femme tout de suite lui saute dessus en lui disant « Ah, si tu savais ce qui s'est passé aujourd'hui, ton fils, il est vraiment épouvantable !» C'est pas forcément une soirée qui va encore bien commencer, quoi. C'est parti pour un tour. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, celles qui ont l'expérience, moi, vous devriez le savoir. Mais... Donc, être pour votre mari une source d'apaisement. Alors, quelles sont les vertus à développer pour cela ? La douceur, la patience, la charité, la fidélité, la pureté. La femme, dans le plan de Dieu, doit être une source d'apaisement. Ça veut dire que vous ne devez pas être un excitant pour l'homme, que ce soit physiquement ou moralement. En voulant, par exemple, imposer vos vues, en voulant prendre le commandement, en montrant de l'agacement ou de l'impatience, en refusant les petits services, en faisant la morale de façon outrancière, surtout publiquement, ou en contredisant votre mari devant vos enfants. Bon, ce sont des choses qui semblent élémentaires en théorie, mais en pratique, ce n'est pas toujours facile à d'agir dans ce sens. Donc vous devez être pour votre mari une source d'apaisement. Et puis enfin, vous devez aussi l'aider à surnaturaliser ses actions. Si votre mari est très pieux par nature, Deo gratias, et s'il ne l'est pas, eh bien sachez user de votre tact pour le rapprocher de Dieu. Et sachez que les hommes sont très susceptibles sur le chapitre religion, presque aussi susceptibles que sur le chapitre de la politique. Donc si vous voulez faire du forcing sur le plan religieux, vous allez le braquer et finalement vous allez l'éloigner davantage de la religion. C'est l'expérience qui le montre. Donc il faut beaucoup de patience, beaucoup de tact, pour arriver à ce que vous voulez et à ce que Dieu veut pour lui. Ensuite, pour une meilleure entente entre conjoints, il y a beaucoup de choses à dire, donc je le dis d'une façon un peu synthétique. Pour une meilleure entente entre conjoints, il faut connaître le secret du bel amour. Et une des difficultés qu'il y a dans le cas de l'amour conjugal, c'est que l'amour conjugal, c'est un amour de choix et non pas un amour d'instinct. Je vous ai parlé, lors de la première conférence, de l'amour maternel. L'amour maternel, c'est un amour naturel, c'est un amour d'instinct. Tandis que l'amour conjugal, c'est un amour de choix. Et parce que ce n'est pas un amour d'instinct et que c'est un amour de choix, cet amour-là, il faut l'entretenir, il faut le parfaire tous les jours. Sinon, il peut diminuer et il peut même s'éteindre. Alors, quel est le secret pour entretenir cet amour ? 4 attitudes à développer. Se comprendre, tout d'abord, ce qui n'est pas forcément toujours évident entre hommes et femmes. Il y a plusieurs livres qui en sont sortis là-dessus, ou des conférences qui ont été données. Moi-même, j'en avais donné une il y a quelques années ici, il y a 4-5 ans, sur ce que les hommes ne comprennent pas et ce que les femmes ne savent pas, parce que lorsque les femmes savent, elles comprennent, bien sûr. Il y a aussi Marcel Clément qui a fait beaucoup de... qui a traité ce sujet aussi en long et en large. Il y a un livre où il y a des choses à prendre et des choses à laisser, parce que ça se transforme un peu en recette de cuisine. Alors si tu dis ça, c'est ça qu'il faut comprendre, ou alors il faut lui répondre ça. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a quand même des choses à prendre. Le livre intitulé « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Donc Mars, c'est Dieu de la guerre, Vénus, c'est l'amour. Et donc, ils viennent de deux planètes différentes, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes souvent de compréhension. Donc se comprendre tout d'abord, ensuite s'adapter. Et là, il y a une phase qui est plus ou moins longue, mais il faut savoir s'adapter. Je vois bien, dans mon ministère, bon, c'est une analogie bien sûr, j'ai eu 2 postes différents avec, dans le deuxième poste maintenant, donc 2 collaborateurs très proches, plus proches, Monsieur Labelle Larocque pendant 6 ans, et maintenant c'est Monsieur Labelle Laurençon. Donc les 3 collaborateurs que j'ai pu avoir dans ma vie de prêtre, j'ai constaté que nous étions complémentaires sur certains points. Heureusement d'ailleurs, grâce à Dieu. Mais dans les 3 collaborateurs, puisque nous ne sommes pas parfaits, eh bien, dans tous les cas, il y a eu des choses que l'on supporte plus qu'on apprécie chez l'autre. Et ce qui est vrai pour eux, pour moi vis-à-vis d'eux, est vrai pour eux vis-à-vis de moi, c'est évident. Et donc, il est nécessaire de ne pas idéaliser les choses et donc, par conséquent, de s'adapter. Et pour cela, d'accepter les limites de l'autre. Mais ce qui est quand même très important, et c'est là que ça rejoint la compréhension, c'est qu'on est parfois surpris des réactions de l'autre en pensant que c'est un défaut de votre mari, alors qu'en fait, c'est un petit peu le mode de fonctionnement, entre guillemets, de l'homme. Et alors, quand vous savez que les hommes marchent comme ça, en ce moment-là, ça peut vous rassurer, et donc, ça peut vous aider à mieux accepter, disons, ce mode de comportement. Donc, se comprendre, s'adapter. Alors, pour nous, l'adaptation, c'est plus facile, parce que donc là, je parle entre prêtres, donc c'est entre hommes, c'est beaucoup plus facile. Se comprendre, s'adapter, ensuite se faire mutuellement plaisir. Et puis enfin, se donner. L'épouse est celle qui se donne et non pas celle qui se prête ou qui loue ses services. Et pour ce point, d'ailleurs, la réciproque est vraie, hein, pour l'homme. Je vous rassure. Donc le mariage, qu'est-ce que c'est? C'est ce contrat irrévocable, cette obligation permanente de se donner corps et âme. Donc il faut apprendre à livrer son corps, livrer son affection, livrer son attention, livrer ses conseils, livrer ses services, livrer ses dons reçus de Dieu, livrer sa présence. Et pour assurer au mieux cette collaboration, il est nécessaire de vous voir régulièrement entre conjoints et non pas uniquement en présence des enfants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire là aussi, mais c'est nécessaire en tout cas d'y réfléchir. À noter également à ce sujet qu'au début du mariage, en général, le mari est tout à sa belle, entre guillemets, et avec le temps, le travail prend souvent plus de place. Et l'épouse a souvent tendance à le lui reprocher. En fait, si le mari est si longtemps au travail, ce n'est pas forcément pour son plaisir, mais c'est pour le bien commun du foyer. Il est vrai cependant que quand il y a des difficultés à la maison ou que l'épouse tire une tête de 6 pieds de long, ça n'encourage pas forcément le mari à rentrer plutôt à la maison non plus. Hein. Et donc, quand il y a des difficultés, une des solutions faciles pour le mari, c'est de se réfugier dans le travail, comme une solution facile pour la femme, c'est de se réfugier auprès de ses enfants. Donc, retenez ici, en guise de conclusion sur la question simplement de votre rôle d'épouse, que pour être aimé, il faut chercher à devenir, à être aimable, à demeurer aimable. Pour être aimé, il faut chercher à devenir, à être, à demeurer aimable. Et donc, pour avoir un beau mariage, il faut le construire et le reconstruire tous les jours. On ne trouve pas comme ça le bonheur dans un paquet de bonus. Il faut le construire et le reconstruire tous les jours. Alors maintenant, après ce rôle d'épouse, le rôle de mère. Je vous le disais, toute femme est mère par nature, et donc pour pouvoir vous épanouir en tant que femme, vous devez d'une manière ou d'une autre, pas forcément donc de manière physique, mais d'une manière ou d'une autre, votre maternité doit s'exercer. Le pape Pie XII le disait, bon là je retrouvais un livre de Thierry Lelièvre sur la bienheureuse Jeanne Beretta-Mola, cette femme médecin, qui est née en 1922 et qui est décédée le 21 avril 1962 en mettant son 4e enfant au monde. Elle avait dit « Si vous devez décider entre moi et l'enfant, n'hésitez pas, choisissez et je l'exige, l'enfant, sauvez-le. » Donc cette femme a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 24 avril 1994. Et donc, elle rappelait cette vérité donc élémentaire, que toute femme est mère par nature. Elle disait cela aux filles de l'Action catholique. Toute vocation est vocation à la maternité, physique, spirituelle, morale, parce que Dieu a mis en nous l'instinct de la vie. Le prêtre est père, les sœurs sont mères, mères des âmes. Malheureuses les filles qui n'acceptent pas la vocation d'être mère. Se préparer à sa vocation, c'est se préparer à donner la vie. Il y a de très belles pages aussi dans ce livre. Je vous livre un petit peu quelques réflexions de sa spiritualité, si vous voulez, et sur cette fonction de mère, pour montrer comment elle a pratiqué son rôle de mère. Elle fait ce commentaire du credo. Pour porter le Christ aux autres là où ils sont, elle explique sa façon de faire en suivant les paroles du credo. Il descendit du ciel, il s'est incarné, il a souffert, il a été enseveli. Il faut premièrement une descente du ciel, c'est-à-dire l'humilité. Descendre pour conduire les âmes au Christ, puis disparaître quand vient le moment. On ne travaille pas pour nous, pour gagner quelque avantage ou réputation, mais seulement pour Dieu. Ensuite, il faut une incarnation, c'est-à-dire rendre la vérité visible en sa propre personne, la rendre aimable en proposant en soi-même un exemple attirant et même héroïque pour être témoin vivant de la grandeur et de la beauté du christianisme. Puis, il a souffert. Les âmes se gagnent par l'exemple, par la parole, mais surtout par le sacrifice. On ne peut être des sauveurs si on n'est pas un autre Christ, c'est-à-dire crucifié comme lui. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on travaille au royaume de Dieu sans rencontrer de résistance. Enfin, il a été enseveli. Ici, le Christ est enseveli, vivant au fond des âmes par la grâce sanctifiante. Il se renferme dans le tabernacle pour agir plus efficacement sur les hommes. Il est enseveli dans le cœur de l'homme pour chercher à remuer sa volonté, à éclairer son intelligence et à donner un sens divin à son activité. C'est dans cette vision imprégnée de foi que Jeanne a toujours travaillé dans l'action catholique et comme médecin. Elle dit « Quand les soins médicaux sont inefficaces, on doit se préoccuper de ce que le malade est une assistance religieuse. » Donc, toute femme est mère par nature. Et la preuve que la maternité est bien, bel et bien, le rôle de la femme, c'est qu'Ève a été punie par là. Tu enfanteras dans la douleur. De plus, on voit que la Sainte Vierge, qui est la nouvelle Ève, elle est essentiellement mère, mère de notre Seigneur et notre mère à tous. Et donc, c'est cette maternité, si vous voulez, qui est en vous, en puissance, qui est le fondement de votre dignité, de votre grandeur, de votre noblesse. Que de fait, vous soyez ensuite, demain, mère ou non, au sens physique. Voici ce que disait à ce sujet donc cette mère de famille dont je vous ai déjà parlé lors des conférences précédentes. Cette femme qui est décédée à l'âge de 49 ans, et voici ce qu'elle disait toujours dans la même conférence alors qu'elle était âgée de 44 ans. Une conférence à Brest adressée à des jeunes ménages, oui, surtout adressée à des femmes. Je n'entends pas souvent parler de la femme vis-à-vis de sa propre dignité. Nous sommes en général très ignorantes là-dessus, par je ne sais quelle fausse et complètement idiote humilité, nous repoussons habituellement cette idée de notre propre dignité, ce devoir de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle entend par dignité ? Ce devoir de respect vis-à-vis de nous-mêmes. Chacun de nous a un devoir vis-à-vis de sa dignité. Le prêtre a un devoir vis-à-vis de son sacerdoce. Il ne peut pas se comporter n'importe comment. Son sacerdoce ne lui appartient pas, c'est celui du Christ. Eh bien, il y a une dignité de la femme. Elle vient de sa maternité. Même une femme sans enfant est revêtue de cette dignité, comme toute femme qui n'est pas enceinte. C'est parce que la femme est toujours physiologiquement et psychiquement ordonnée pour la maternité. Elle aura toujours en elle la possibilité de puiser dans ses dons particuliers. Or, nous vivons habituellement comme si tout cela n'existait pas. Nous passons beaucoup de temps à nous inquiéter. C'est une femme qui parle, hein ? Donc elle sait de quoi elle parle. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, sans être une femme. Nous passons beaucoup de temps à nous inquiéter de n'être pas parfaite, en regrettant plus ou moins ce que nous rêvons et qui, par conséquent, n'existe pas. Nous passons beaucoup de temps à nous inquiéter de n'être pas parfaite, en regrettant plus ou moins ce que nous rêvons et qui, par conséquent, n'existe pas. Alors elle ajoutait ensuite, « J'ai bien conscience que chacune de nous est un piètre modèle de ce que doit être la femme, l'épouse, la mère. Mais enfin, Aux yeux de la société, de notre mari et de nos enfants, nous incarnons la femme, l'épouse, la mère. Cette image parfaite, que nous le voulions ou non. Comme un catholique au milieu des incroyants, reste toujours l'image de l'Église dont il est le membre. Il faut penser à ce sens de la dignité. Il faut nous en imprégner pour qu'ensuite cela porte peu à peu ses fruits. Si vous avez le sens de la dignité de la femme, vous saurez instinctivement comment vous montrer. Si vous avez le sens de la dignité d'épouse, vous saurez instinctivement ce que vous devez inspirer en amour. Si vous avez le sens de la dignité de mère, vous trouverez instinctivement et la fermeté dans votre autorité et la tendresse illimitée, vous saurez tout doser. Si par contre vous n'avez pas le sens de ces dignités, vous serez immédiatement sanctionné. Vous serez enquiquiné dans la rue ou au cinéma. Votre mari se lassera et vous trouvera bobonne. Vos gosses deviendront les gosses. Ils vous dépasseront en rigolant au nez. C'est très intéressant, vous voyez, ces réflexions de cette femme, donc il y a 18 ans, et qui me semble tout à fait d'actualité. Beaucoup trop de jeunes filles et de femmes ont tendance à se déprécier, encore une fois, en raison de ce climat de faux masculinisme qui a envahi la société. Donc je pense qu'il est indispensable, ce n'est pas de l'orgueil, de retrouver le sens de votre véritable dignité pour être heureuse d'être ce que vous êtes à la place où vous êtes. Et c'est ce qui vous permettra d'être épanoui et de répondre au mieux à ce que le bon Dieu attend de vous. Et donc, après l'épouse, nous parlons maintenant de la mère. En tant que mère, on peut dire que la femme, c'est le cœur du foyer. Par sa dévotion, la femme est l'âme du foyer. En tant que mère, elle est le cœur du foyer. Elle est le cœur qui répand l'amour. Elle est le cœur qui lie les cœurs. Et ici, je vais attirer votre attention sur la façon d'exprimer votre amour à vos enfants. Un livre est sorti il n'y a pas si longtemps, qui m'avait été... c'est une femme qui m'avait demandé de lire ce livre pour lui dire ce que j'en pensais. Elle avait besoin d'un éclaircissement pour savoir ce qu'il y avait à apprendre et à laisser dans le livre. Donc ce livre, peut-être plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu ou il est arrivé dans vos mains, c'est « Comment vraiment aimer votre enfant » du docteur Campbell. Donc l'intérêt de ce livre, c'est de montrer que l'enfant a besoin de se sentir aimé pour être épanoui. Je ne dis pas de se savoir aimer là, mais de se sentir aimé. Il faut qu'il ait cette sensation par le regard, par le contact physique, qu'il a besoin de se sentir aimé. Et donc, il ne suffit pas de vous contenter de lui imposer des devoirs, de lui faire des reproches lorsqu'il se conduit mal. Il faut également lui manifester votre affection. Et ensuite, vous avez quelques vérités, si vous voulez, quelques bonnes vérités qui sont rappelées par le médecin, par le docteur Campbell. Il commence par dire que c'est d'abord l'union entre époux que dépend la stabilité du foyer. Vous voulez que vos enfants soient épanouis, soyez unis à votre mari. C'est la première condition. La qualité de l'éducation que vous donnerez aux enfants dépend de la qualité de l'union qui existe entre vous et votre mari. C'est une évidence, je prends encore une analogie. Si nous, on se dispute toujours entre professeurs, on ne va pas donner un exemple aux séminaristes, c'est une évidence. Ou dans un prieuré, si les prêtres se tapent dessus, comment voulez-vous qu'on donne des leçons ensuite à nos fidèles ? Donc il faut qu'il y ait d'abord, c'est le minimum, une bonne entente entre nous. Et cette bonne entente, c'est ce qui va favoriser notre propre équilibre et qui va être un exemple pour les fidèles. C'est une évidence. Eh bien, ce qui est vrai donc dans ce cas-là est vrai aussi dans une famille. Si les parents se disputent tout le temps, allez ensuite aux parents dire aux enfants « arrêtez de vous disputer ». Ben, commencez-vous par arrêter de vous disputer, après on verra. Montrez l'exemple, c'est le minimum. Donc, l'épanouissement de vos enfants dépend en grande partie de cette union qui existe entre vous. Et les enfants sentent très bien. Quand bien même vous ne disputerez pas devant eux, eh bien, ils sentent bien quand il y a l'orage dans l'air. Donc, il montre ensuite que si l'enfant doit se sentir aimé, les parents ne doivent pas se rechercher eux-mêmes maintenant dans les rapports avec leur enfant. Donc ça, c'est un autre écueil qui peut exister. Et il va montrer qu'il y a quatre formes d'amour déréglé qui peuvent exister dans un rapport avec les enfants. Donc il parle, lui, d'amour approprié et d'amour déplacé. Donc l'amour approprié, c'est le bon amour que l'on doit donner, donc que les parents doivent donner à leurs enfants. Donc l'amour approprié va consister à communiquer à l'enfant son amour en vue de lui donner une éducation saine et d'encourager sa croissance émotive et sa confiance en lui-même. Le but de cet amour qu'on communique à cet enfant, c'est de lui permettre d'avoir une éducation qui soit saine, d'encourager sa croissance émotive, affective, et de lui permettre de développer la confiance en lui-même. Alors maintenant, l'amour déplacé, il y a quatre manières, hélas au moins, de dévoyer cet amour. Tout d'abord, le désir de possession. Donc des parents peuvent avoir tendance à considérer leurs enfants comme un objet ou comme une propriété acquise, et non comme une personne qui a besoin de grandir selon ses caractéristiques propres, et devenir petit à petit indépendante et confiante en elle-même. Donc il est indispensable d'encourager un enfant à penser lui-même, à être spontané, à comprendre qu'il est une personne à part entière et qu'il doit assumer de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure qu'il grandit. Donc le désir de possession, c'est un premier désordre. Ensuite, bon, là je ne fais que le mentionner, je passe très vite, le désir de séduction, mais il y a tellement malheureusement de... Le docteur en parle. Le désir de séduction, donc on entend par là le désir d'éprouver des émotions impures au contact des enfants. Ensuite, donc troisième forme déréglée de l'amour, le désir de vivre par personne interposée, c'est-à-dire le désir de voir vos enfants réaliser vos rêves de jeunesse. Ce que vous n'avez pas réussi à faire, vous voulez que votre enfant le réalise et vous le poussez dans ce sens. Et s'il n'y arrive pas, eh bien à ce moment-là, bien sûr, que ce sera un échec du côté de l'enfant et aussi du vôtre. Et ce n'était pas forcément ce que le bon Dieu voulait pour lui. Et puis enfin, et ça arrive, alors c'est tout à fait aussi classique, le renversement des rôles. Donc le monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce renversement des rôles? Eh bien, il consiste dans le défaut qu'ont certains parents de chercher auprès de leurs bébés et de leurs petits-enfants des soins affectifs et de la protection. Lorsque des parents sont fatigués ou déprimés ou encore malades, ils désirent que les enfants soient alors réconfortants, rassurants, pleinement mûrs et maîtres d'eux-mêmes. Donc c'est le monde à l'envers. Alors pour prévenir ces écueils, les parents doivent avoir eux-mêmes une vie équilibrée sur le plan naturel et surnaturel. Maintenant, quelles sont les limites du livre? Bon là, j'étais très bref parce qu'il a dit bien autre chose dans ce livre, mais les limites de ce livre, j'en parle quand même pour ne pas... prendre forcément argent comptant tout ce qui est dit. On voit très bien que le docteur Campbell est protestant et qu'il va négliger dans l'éducation des enfants l'influence du péché originel, le mystère de la croix dans la vie chrétienne, la place des sacrements, le renouvellement intérieur de nos âmes. Donc il y a beaucoup de manques dans ce livre. Mais malgré tout, il y a quand même des éléments intéressants, dont ceux que je venais de nommer. Donc la femme, c'est le cœur du foyer. Elle est le cœur qui répand l'amour et qui lie les cœurs. Elle est aussi celle qui écoute, qui guérit, qui console, qui comprend. Elle est celle encore qui éduque, non pas principalement par l'énoncé de principe, ça revient plutôt à l'homme, mais par l'exemple, par la présence, par l'assistance et encore par l'insistance. Alors là encore, pour bien remplir ce rôle de mère, ce rôle de parent, bon, il y a un livre que j'ai commencé à lire la semaine dernière, je ne l'ai pas tout à fait terminé, dans la collection Marabout, Le secret des enfants heureux. Alors il y a encore une fois, il y a des choses à prendre et des choses à laisser, mais il y a quand même certaines vérités élémentaires qui sont rappelées. Et donc je vous lis là aussi quelques passages de ce livre. Bon, il dit qu'en général, quand on doit se mettre en colère contre un enfant, bon, d'une certaine manière, il ne faut pas toujours en rajouter. C'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir doser. Il donne un exemple, il dit qu'il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'enfant et voir ce que va produire en lui ce qu'on va lui dire. Par exemple, on peut lui dire « Je suis fâché contre toi maintenant et je veux que tu ranges tes jouets. » Non, « Je suis fâché contre toi et je veux que tu ranges tes jouets maintenant. » Je suis fâché, donc on montre qu'on est fâché, et je veux que tu ranges tes jouets maintenant. T'as compris ? Bon. Alors c'est peut-être mieux de dire ça plutôt que de dire « Espèce de sale petit feignant, pourquoi est-ce que tu ne fais jamais ce qu'on te dit ?» Vous voyez, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ensuite, après, il dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il donne quelques exemples. Donc, éviter des paroles humiliantes. Bon, dans certains cas, ça peut être nécessaire, mais ce n'est pas la peine non plus de le faire toujours, parce que sinon, ça risque de blesser l'enfant. Rends-moi ça, sale petit égoïste. Ou encore, ne jamais faire de comparaison. Alors, c'est sûr qu'il y a des exemples qu'il prend. Tu es aussi nul que ton père. Pourquoi tu ne peux pas être mignon comme ton petit frère ? Ou encore, ne jamais parler à des tiers des défauts des enfants si ces derniers sont à portée de voix. Donc vous êtes en train de parler à une amie, et puis il y a votre fille qui est derrière et qui entend la conversation. Et donc vous dites à votre amie, « Oh, vous savez, elle est terriblement timide, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. » C'est pas forcément la même meilleure manière d'aider votre fille, vous voyez. Ou encore, ne pas utiliser la culpabilité pour contrôler un enfant. Par exemple, ne pas dire « Bon sang, tu m'épuises, c'est sûr, je vais tomber malade. » Ou encore « Tu vois ce que tu fais à ta mère ?» Alors ça, ça fait penser à une histoire qui m'a été racontée récemment. Ça s'est passé en Suisse. Un prêtre en confessionnal, en confession, on a parfois des histoires un peu cocasses. Et donc, un enfant se confesse et... d'une façon très sérieuse, mais apparemment, il ne pensait pas dire quelque chose de dramatique, il dit « J'ai tué ma mère 3 fois. » Alors, le prêtre ne comprend pas très bien. « Tu peux répéter, s'il te plaît ?»« Oui, j'ai tué ma mère 3 fois. » Ben oui, parce que en fait, elle aime bien que je lui fiche la paix, puis je suis souvent près d'elle. Alors, elle me dit « Allez, fous-moi la paix, tu me tues. » Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai tué ma mère 3 fois. Ensuite, après, vous avez la question des ordres. Quand on donne un ordre à un enfant, il faut que l'ordre soit clair. Donc là, il prenait l'exemple de petite promenade en bateau. Et donc vous êtes donc toute la famille, et puis vous avez une petite fille qui s'appelle Lucie, qui est avec vous, et qui a tendance à vouloir voir ce qui se passe par-dessus bord. Alors elle dit, ben, normalement il faut essayer de donner donc un ordre clair et précis. Donc il est préférable de dire, Lucie, tiens-toi aux 2 bords du bateau avec les mains. Elle dit que c'est plus efficace que de dire, attention de ne pas passer par-dessus bord. Ou pire encore, « Tu m'imagines, moi, ta pauvre maman, si jamais tu te noies ?» Alors ensuite, après, il dit que donc faut éviter d'être toujours négatif, il faut savoir être positif. Alors il y a des exemples, si vous voulez, où on comprend très bien, et d'autres qui me paraissent peut-être un peu exagérés. Donc le premier, ça va encore. Donc vous imaginez, vous êtes en train de vous promener en ville et votre enfant, donc, il marche plus vite que vous. Et donc, vous êtes poussif derrière en train d'essayer de rattraper. Et du coup, donc, vous pouvez très bien lui dire, tu débordes d'énergie. Est-ce que tu pourrais ralentir un peu pour moi ? Et alors après, bon, c'est un autre cas de figure où ils mettent ici, comme c'est bien, tu n'as cassé qu'un côté du pichet. Tu n'as cassé qu'un côté du pichet. Alors là, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Je pense que l'enfant ne vous croira pas. Si. Ensuite, il dit aussi, n'utilisez pas les compliments à la manière d'un rouleau compresseur pour aplanir les doutes ou les craintes d'un enfant. Écoutez-le vraiment, n'en faites pas trop. Choisissez le bon moment et soyez sincère. Si vous ne le pensez pas, ne faites pas semblant. Donc il dit qu'il faut savoir être positif, mais bien sûr, n'exagérez pas non plus dans ce sens-là, parce que l'enfant ne vous croira pas, et donc soyez toujours réaliste. Ensuite, pourquoi les enfants font des bêtises ? Alors ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de motifs, mais 3 qui sont évoqués ici.
Premier motif, c'est parce qu'ils s'ennuient. Donc c'est très important que vos enfants soient toujours occupés, et ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes occupations. Mais c'est vrai que si on se dit pourquoi des enfants font des bêtises, premier motif, parce qu'ils s'ennuient. Pouvez-vous leur trouver une chose à faire qui les stimule ? Aller au parc avec un ballon, inviter leurs amis, les inscrire à une activité de groupe, emprunter des jouets, mettre en place une caisse pleine de briques et de brocs pour encourager leur créativité, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas encagés ni vous. Ensuite, ils font des bêtises parce qu'ils se sentent indésirables. Donc si vous faites toujours que des remarques négatives à vos enfants, eh bien, ils finissent par se sentir indésirables. Alors en ce moment-là, ils font des bêtises. Ensuite, troisième motif, ils font des bêtises pour qu'on les remarque. Donc parfois, c'est une manière pour eux d'attirer l'attention. Également, un autre aspect, c'est le besoin du père chez l'enfant. Et spécialement, le besoin de faire des choses avec son père. Donc ce n'est pas uniquement, donc c'est rendez-vous dans le bureau du père toutes les semaines de telle heure à telle heure, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt savoir faire des choses avec son père. De tout ce qu'on sait sur les familles, une chose est sûre, c'est que les enfants, et tout particulièrement les garçons, tirent un grand profit des moments passés en compagnie de leur père. Pendant ces moments-là, il se passe des choses différentes, complémentaires de ce qui se passe avec la mère. Et dans la majorité des cas, être avec son père signifie faire quelque chose ensemble. La confiance et la confidence s'installent petit à petit, tandis qu'en apparence, on charge le bois, on répare la voiture ou on rassemble les moutons. Il est vital pour le père de faire des choses avec ses enfants. Cela permet tout simplement de créer une proximité. La conversation dérive vers des sujets plus profonds. Des choses surgissent sans qu'on y prenne garde. Un père détendu peut vraiment orienter la vie de ses enfants, bien plus qu'en laissant faire la télé ou les copains. Donc ça, c'est une évidence. Mais je le rappelle quand même parce que dans beaucoup de familles, surtout des familles nombreuses, ce n'est pas toujours facile de prendre du temps avec chacun des enfants. Et plus ils grandissent, plus il faudrait prendre du temps. Donc ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est un point important à souligner. Ensuite aussi, il rappelle que la crise de rage n'est pas en soi une étape indispensable au développement d'un enfant. Donc comment réagir dans ces cas-là ? Comment faire face à la crise de rage, bête noire des parents, est si fréquente ? Ne laissez jamais une crise devenir rentable pour l'enfant. S'il en commence une, ne vous en occupez pas ou mettez-le en lieu sûr selon les circonstances. Lorsque c'est fini, tirez les conséquences pour le long terme. C'est le bon moment pour s'assurer qu'ils sauront s'y prendre autrement une prochaine fois pour obtenir ce qu'ils veulent. Intervenez d'emblée quand vous sentez que l'enfant est en train de mijoter une crise. Prenez-le au dépourvu. Enfin, évitez dans la mesure du possible les situations éprouvantes pour vous et votre enfant. La crise de rage n'est pas une étape indispensable du développement de l'enfant. La plupart des enfants essaieront, mais si nous n'y faisons face d'emblée, ça leur passera vite. Alors après, la question de la comédie, la question de la bouderie. Comment réagir par rapport à la bouderie ? La bouderie ne fonctionne que si les parents culpabilisent et l'enfant apprend vite à exploiter cette culpabilité. Si nous prodiguons amour et attention à un enfant qui boude, il en retient une équation simple. On obtient de l'amour quand on a l'air malheureux. Si l'on veut qu'on s'occupe de nous, il suffit de nous écrouler et de peaufiner nos attitudes négatives. Alors les gens nous donneront de l'attention en abondance. L'ennui, c'est que ça devient un mode de vie. Avec la bouderie, on se trace une carrière de pleurnichard. Si un enfant boude près de moi, je lui dis. Donc c'est ce que dit là le docteur, donc Steve Bidulph, qui donc est un Australien. Donc ce livre est sorti en 84 en Australie, donc c'est la quatrième édition qui est sortie l'an dernier. Sorti en 1 million d'exemplaires. Si un enfant donc boude près de moi, je lui dis, tu es quelqu'un d'important pour moi, j'aimerais t'aider. Réfléchis à ce que tu veux vraiment, tu me trouveras dans la cuisine. Et je le laisse. En général, il vient vers moi et s'exprime plus directement, alors je l'aide volontiers. En l'absence de témoins, la bouderie, ça devient ennuyeux. Ensuite, un chapitre très important, c'est celui de la fermeté. C'est très intéressant comme remarque, vous voyez, parce qu'il y a des parents qui veulent être, on veut être jeune avec les jeunes, donc on veut être aussi sympa, on veut être gentil, bon, tout le temps, et on veut utiliser, disons, donc une méthode facile, une méthode douce, et parfois on fait preuve de faiblesse. Donc le chapitre 5 porte sur le parent sûr de lui. Quand j'ai commencé à travailler avec des familles, je suis allé de découverte en découverte. Une de mes premières grandes surprises fut de me rendre compte que certains des enfants les plus équilibrés et les plus heureux étaient élevés par des parents qui, à mon sens, se montraient d'une fermeté incroyable. Le secret était que ces parents, sévères certes, étaient fiables, tellement cohérents que leurs enfants connaissaient exactement les règles et le moyen d'éviter les ennuis. De fait, ils n'étaient que rarement punis. Mais ce qui ressort de plus important, c'est que ces enfants savaient qu'ils étaient aimés et soutenus sans réserve. Pour eux, le rejet était impensable. Ils pouvaient parfois ressentir de la crainte, mais jamais d'angoisse, jamais de sentiment d'abandon. Bref, un règlement strict, plus de l'affection positive. Et je pense que l'un sans l'autre, ça n'aurait pas marché. À l'inverse de ces familles sévères mais justes, j'ai rencontré un nombre important d'enfants qui jouissaient de beaucoup de liberté, se comportaient abominablement sans aucune représaille, mais se sentaient franchement malheureux. Manifestement, ces enfants cherchaient quelqu'un qui puisse leur tenir la bride et leurs parents se méprenaient sur leur message. Ils pensaient que l'enfant souhaitait plus d'espace et plus de liberté, mais c'est l'inverse qui était vrai. Et donc là, une règle d'or à noter. L'enfant a besoin de limites, c'est un des secrets que les parents doivent connaître. Alors ensuite, il montre, face à une difficulté, face aux comédies de l'enfant, il y a trois attitudes possibles du côté des parents. L'attitude d'agressivité, l'attitude de passivité ou l'attitude de fermeté. Et il montrera que, bien sûr, la bonne attitude, c'est l'attitude de fermeté. Le parent agressif choisit l'attaque, physique ou verbale, pour rabaisser l'enfant. Le parent passif laisse l'enfant lui marcher dessus. Il ne cherche à reprendre le contrôle que quand la goutte d'eau fait déborder le vase, sous la forme d'une explosion inattendue. Le parent ferme est très différent. Alors, le parent ferme. Le parent ferme est clair, assuré, résolu et au fond de lui, relativement détendu et confiant. Son enfant découvre que ce que dit papa ou maman va de soi, mais en même temps, il sait qu'il ne sera pas rabaissé ni humilié. On ne rencontre pas tous les jours des personnes capables de fermeté, et vous ne disposez peut-être pas de beaucoup de modèles à imiter. Si vos parents étaient agressifs, il peut être particulièrement difficile pour vous d'être ferme. L'important, c'est de considérer la fermeté comme un savoir-faire et non comme une qualité que l'on possède en naissant. Cela signifie que vous pourrez l'apprendre avec le temps, il y a de l'espoir. La fermeté réside aussi dans l'action, dans ce que vous faites concrètement. Voici comment obtenir un comportement correct d'un enfant habitué à désobéir ou à faire traîner les choses. Donc il prend un exemple en 5 points pour montrer comment montrer une attitude ferme. Tout d'abord, premier point, soyez clair dans votre tête. Premier point, soyez clair dans votre tête. Ce que vous demandez à votre enfant, ce n'est pas une requête, ce n'est pas ouvert à discussion. C'est une demande que vous faites en droit de, que vous êtes en droit de formuler et l'enfant trouvera un bénéfice à prendre l'habitude d'y répondre. Donc d'abord, soyez clair dans votre tête. Deuxièmement, soignez la qualité du contact. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Allez près de l'enfant et faites-le vous regarder. Ne donnez l'instruction que quand il vous regarde. Troisièmement, soyez très clair. Dites « Je veux que tu, par exemple, je veux que tu ranges tes jouets ou je veux que tu fasses la vaisselle, maintenant. » Tu comprends ? Exigez une réponse positive ou négative. Quatrièmement, s'il n'obéit pas, répétez ce que vous attendez de lui. Ne discutez pas, ne raisonnez pas, ne vous fâchez pas et n'ayez pas peur. Respirez lentement et profondément pour rester sereine. Le signal que vous envoyez alors à votre enfant, c'est que cette fois, vous avez l'intention d'insister sans même vous énerver. C'est l'étape décisive et ce qui est le plus important, c'est ce que vous ne faites pas. Vous n'entrez pas dans une négociation ou une dispute, vous ne vous échauffez pas, vous répétez simplement votre demande à votre enfant. Cinquièmement, restez à proximité s'il y a le moindre risque que l'enfant n'accomplisse pas la tâche jusqu'au bout. Quand elle est terminée, par exemple ranger les jouets, n'en faites pas un plat, tout un plat non plus. Dites simplement en souriant, c'est bien. Il s'agit là d'une procédure éducative. Les premières fois, cela peut prendre du temps. Vous vous direz, bon sang, c'est plus facile de ranger les jouets moi-même. Mais le temps que vous aurez investi ces fois-là sera rattrapé 1000 fois plus tard. L'astuce consiste simplement à persévérer. Quand l'enfant se rend compte que vous n'allez pas baisser les bras, lui offrir en spectacle une mini-crise nerveuse ou vous détourner de votre objectif, alors il cède naturellement. Bientôt, vous verrez, vous allez adopter un ton de voix, une attitude avec votre enfant qui voudront dire « je ne joue pas ». Un ton très différent de celui que vous utilisez pour discuter, chahuter, le complimenter ou jouer avec lui. L'enfant va reconnaître ce ton comme signifiant « tout de suite ». Et il va le faire, joie et bonheur. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est les limites de ce livre, c'est qu'il y a vraiment tout un état d'esprit quant à la philosophie sous-jacente, si vous voulez, plutôt la conception du passé, qui est complètement erronée. Voici la caricature que l'auteur fait de ce qui a existé avant donc les années 80. Jusqu'au XXe siècle, les enfants ne posaient pas de gros problèmes. Les deux tiers mouraient, les autres étaient traités avec indifférence jusqu'à la puberté. Ils passaient alors dans le camp des adultes. La violence était le mode de discipline usuel. C'était le temps où l'on envoyait des gosses de 7 ans au fond des mines, non ventilées, ou 10 heures par jour devant des machines dans les usines. L'enfance a fait des progrès. Bon. Dans les années 50-60, on a vu surgir la grande époque de l'enfant roi. Comme à chaque mouvement novateur, on a laissé le balancier aller trop loin. Les jeunes se sont trouvés en position d'être les personnes les plus importantes de leur famille. Inutile de dire que ce n'a pas été fantastique pour eux non plus. Puis, on a trouvé le juste milieu. Nous sommes en train d'apprendre à donner à la fois de l'affection tendre et de l'affection dure, et nos enfants commencent à se stabiliser. Vous voyez, c'est vraiment très caricatural et même complètement faux par rapport au passé. Je vous le montrerai dans un instant. Ensuite, encore un autre passage. Il y aurait plusieurs à montrer, mais c'est pour vrai. L'éducation d'avant est résumée par ce mot. Autrefois, on disait « Dites à vos enfants qu'ils sont mauvais, ça les rendra bons ». C'était le Moyen-Âge de l'éducation enfantine dont nous commençons tout juste de sortir. Ensuite, après, aussi sur le chapitre des émotions, il dit ceci. Jusqu'à récemment, il manquait à notre culture une bonne compréhension de ce qu'est l'émotion. Nous sortons tout juste de l'époque du « les grands garçons ne pleurent pas et les jeunes filles bien ne se mettent pas en colère ». La compréhension du mécanisme des émotions est essentielle. Alors il va dire, il y a 4 émotions de base, la colère, la peur, la tristesse, la joie. Alors que saint Thomas explique très bien qu'il n'y en a pas 4, mais il y en a 11. Et donc, il a déjà découvert 4, c'est quand même pas mal. Mais saint Thomas a quand même vécu avant lui. Donc avec un peu de courage, peut-être que dans 20 ans, il découvrira les 7 autres. Donc il y a toujours à apprendre et à laisser. Et c'est toujours un petit peu ce qui est dangereux parce que les gens ne peuvent pas toujours faire le tri. Et pour vous montrer que, justement, le mode d'éducation, autrefois, n'était pas forcément celui qu'il donne lui, je vais vous citer, en terminant, l'exemple de saint Jean Chrysostome, qui a vécu au IVe siècle. Donc, il donne des conseils très précieux d'éducation des enfants. Et on voit, à travers ces conseils, qu'il a bien le sens et de la corruption de notre nature déchue, et en même temps aussi le sens de l'équilibre nécessaire, de ne pas constamment, strict avec les enfants d'une sévérité, disons, excessive qui éteigne donc la personnalité de l'enfant. Donc voici ce que disait saint Jean Chrysostome. Sur le but de l'éducation, donc là c'est sorti sous la forme d'un volume sur la vaine gloire et l'éducation des enfants, donc aux éditions du Cerf. Je ne cesse de vous exhorter, de vous prier, de vous supplier, pour qu'avant toute chose, vous fassiez de bonne heure l'éducation de vos enfants. Donc, première remarque, faire de bonne heure l'éducation de vos enfants. Si en effet tu as souci de ton enfant, prouve-le de cette façon. D'ailleurs, tu en seras récompensé. Écoute Paul disant, s'il persévère dans la foi, la charité, la sainteté, unis à la modération dans les désirs, même si tu as conscience de tout le mal qui est en toi, songe cependant que tu as en quelque sorte une consolation à ce mal. Élève un athlète pour le Christ. Je ne te dis pas, détourne-le du mariage, envoie-le dans la solitude, prépare-le à mener la vie des moines. Non, je ne dis pas cela. Je le désire, et je souhaiterais que tous embrassent cette vocation. Mais puisqu'elle semble un fardeau, je n'exerce pas de contrainte. Élève un athlète pour le Christ et apprends-lui à avoir, tout en restant dans le monde, la crainte de Dieu dès son jeune âge. Si l'âme encore tendre reçoit l'empreinte des bons principes, personne ne pourra les effacer lorsqu'ils seront durs, comme une empreinte, ce qui se passe pour la cire. Tu as en lui un être encore tremblant, craintif, à qui le regard, la parole et n'importe quoi d'autre font peur. Utilise le début de sa vie pour le bien. Si tu as un fils vertueux, tu es le premier à profiter de ses bonnes dispositions et Dieu ensuite. C'est pour toi que tu travailles. Donc c'est dans l'intérêt même des parents que les enfants soient bien éduqués. Ce sont eux-mêmes qui, plus tard, eh bien, en recueilleront les fruits. Alors qu'à l'inverse, si de fait ils ne savent pas bien éduquer les enfants dans les premières années, après ils n'auront plus que les larmes de leurs yeux pour pleurer sur le devenir de leurs enfants, quand ils seront faits, malheureusement, des bêtises. Alors, comment maintenant exercer l'éducation après avoir vu que le but est de faire un athlète pour le Christ? Par quels moyens ferons-nous leur éducation? Si nous exerçons un contrôle vigoureux sur ce qui se passe. En effet, l'enfant est dans des dispositions tout à fait favorables. Comment cela? C'est qu'il n'est pas encore engagé dans la lutte pour obtenir richesse, gloire, puisqu'il est encore un petit enfant. Il ne s'agit pour lui ni de femme, ni d'enfant, ni de maison. Quelle raison aurait-il d'être insolent ou de calomnier? C'est seulement avec des compagnons de son âge qu'il se dispute. Établis donc rapidement une loi. N'insultez personne, ne calomniez personne, ne pas prononcer de faux serments, être exempt d'agressivité. Si tu le vois transgresser la loi, là il donne justement plusieurs conseils. Si tu le vois transgresser la loi, réprimande-le, tantôt par un regard sévère, tantôt par des paroles mordantes, tantôt par des reproches, d'autres fois, flatte-le et fais-lui des promesses. Pas de châtiment corporel sans trêve. Ne l'habitue pas à ce moyen d'éducation, car s'il apprend à être continuellement corrigé par ce moyen, il apprendra aussi à mépriser la correction. Et s'il apprend aussi à la mépriser, tout est perdu. Au contraire, qu'il craigne toujours les coups, mais qu'il n'en reçoive pas. Qu'on agite le fouet, mais qu'on ne frappe pas. Que les menaces ne soient pas mises à exécution. Qu'ils ne s'aperçoivent pas d'une chose, c'est que les paroles ne sont que des menaces. Car une menace n'aura d'efficacité que s'il croit à sa réalisation. En effet, si ayant commis une faute, il sait comment les choses vont se dérouler, il n'éprouvera que du mépris. Qu'il s'attende donc à être corrigé, mais qu'il ne subisse pas la correction, de façon que la crainte ne s'éteigne pas, mais qu'elle demeure comme un feu qui grandit et qui de tous côtés brûle toutes les épines, ou comme la pioche bien aiguisée et qui va profond pour creuser jusqu'au fond. Cependant, quand tu vois qu'il a tiré profit de la crainte, relâche, car notre nature a besoin d'une certaine détente. Quand tu vois qu'il a tiré profit de la crainte, relâche, notre nature a besoin d'une certaine détente. Donc vous voyez, on voit par là un bon équilibre dans ces conseils qu'il donne. Et pour terminer, je vais vous donner l'exemple qu'il donne aussi, parce qu'il prend en fait sens après sens. Donc ça, c'était sur les paroles. Maintenant, c'est sur la vue. Alors, je ne vais pas prendre tous les cinq sens, je m'arrêterai juste à la vue. Après, il y a une petite conclusion. Donc, voici ce qu'il dit sur la vue, ce que l'enfant peut voir ou ne pas voir. Donc, il imagine que l'âme est comme une citadelle avec plusieurs portes. Et chaque sens est comme une porte. Et donc là, on arrive à une porte qui est la porte de la vue. Il y a encore une autre porte plus éblouissante que celle-là, mais plus difficile à garder, celle des yeux. À cause de cela, elle s'ouvre en haut et possède un élément de beauté. Elle a de nombreux guichets. Elle ne fait pas que regarder. Elle attire les regards quand elle a été bien sculptée. Il faut ici des lois sévères. Et la première, c'est de ne jamais envoyer l'enfant au théâtre. Donc on peut traduire sur la télévision, je ne sais pas. Ne jamais envoyer l'enfant au théâtre, bon, sauf pour les mêmes choses, pour ne pas l'exposer au mal sous toutes ses formes, à la fois par l'ouïe et par les yeux. Que le pédagogue veille surtout à cela, en allant sur les places publiques par des rues étroites, et qu'il fasse des recommandations sur ce point, pour que l'enfant ne soit pas exposé un jour à ce mal. Pour empêcher qu'il n'y soit exposé, quand on le regarde, il faut penser à beaucoup de choses. Retrancher l'excès d'élégance, lui faire couper les cheveux de façon à ce qu'il retombe de haut en bas, pour lui donner une allure sérieuse. Et si l'enfant trouve mauvais d'être privé d'une mise recherchée, apprends-lui que c'est en cela que réside la plus belle parure. Quant à l'empêcher de voir, suffisent à le protéger des récits tels que celui des fils de Dieu qui ont été perdus par les filles des hommes, celui des habitants de Sodome et l'enfer et toutes les autres histoires analogues. À ce sujet, surtout, le pédagogue et l'esclave qui l'accompagne doivent rivaliser d'attention. Montre-lui d'autre part de belles choses. Vous voyez, il ne contente pas d'éviter le mal, il y a le côté positif du bien. Montre-lui de belles choses. Tu détourneras ainsi ses yeux vers le ciel, le soleil, les astres, les fleurs qui poussent sur la terre, les prairies, les livres rehaussés de beaux dessins. C'est cela qui doit charmer ses yeux. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres choses à voir qui ne comportent pas de danger. Cette porte est en effet difficile à garder, car elle renferme le feu à l'intérieur et, pour ainsi dire, une nécessité d'ordre naturel. Qu'il apprenne les chants divins. Si son attention n'est pas éveillée à l'intérieur, il n'éprouve pas non plus l'envie de regarder à l'extérieur. Qu'il ne prenne pas de bain en compagnie des femmes, il y a du danger dans cette habitude et que l'on n'en voit pas non plus, qu'on ne l'envoie pas non plus où les femmes se donnent rendez-vous. Donc c'est intéressant, vous voyez, ce sont des conseils qui sont donnés. Et puis après, en terminant, après, il dit aussi, fait naître en lui de nobles pensées au sujet des femmes. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit un très bel équilibre donc chez un auteur qui a vécu au 4e siècle, donc bien avant la période dont parlait le docteur Bidulph. Et on voit bien qu'il connaissait bien la nature humaine, puisque donc dans la conclusion qu'il donne, en un mot, si vous voulez, il résume les défauts des jeunes gens et des jeunes filles. Il dit ceci dans la conclusion. Ce qui trouble les jeunes gens, c'est l'ardeur des sens. Ce qui trouble les jeunes filles, c'est le goût de la parure et de tout ce qui excite la vanité. Donc, en un mot, il résume bien sur les faiblesses, donc aussi bien des jeunes gens et des jeunes filles. Alors j'avais encore beaucoup de choses à dire, je savais bien que je ne pourrais pas tout dire. C'est pas grave. Alors conclusion, puis ces quelques réflexions, donc vous aider à être de bonnes épouses et de bonnes mères. Donc je n'ai pas parlé de la femme, la servante. Ça aurait pu être l'objet d'une autre instruction, ce n'est pas grave. Donc j'ai conscience dans tout ce que je vous ai dit là que plusieurs ne sont pas directement concernés par ces propos, parce que n'étant pas mère ou future mère directement, vu les vocations particulières qui existent dans le monde, aujourd'hui spécialement, mais malgré tout, pour toutes, il me semble que c'est bien d'avoir ces repères, ne serait-ce que pour donner des conseils appropriés, ou également aussi vis-à-vis des enfants que vous pouvez vous-même côtoyer, les neveux et nièces ou autres. Voilà, donc nous allons nous rendre à la chapelle pour une petite prière.